C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio?
C'est quand Michael Jackson était encore noir?
The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu 102.2.
Bonjour.
Bonsoir.
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 Bonsoir. C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonsoir. Eh bien, c'est l'heure du Canu Info, bien sûr. On va vous parler d'Algérie. Algérie où le chef de l'état-major menace les manifestants à demi-mot.
Et donc, dans le Rhône, un entrepôt géant d'Amazon devrait s'installer.
Et puis, on aura deux personnes qui font partie de ce collectif des professionnels de l'urgence sociale, des travailleurs, travailleuses sociaux, sociales, qui sont rassemblés hier devant la préfecture et qui vont nous parler de globalement la situation de l'hébergement d'urgence à Lyon, dans le Rhône.
Bonjour et merci de votre participation.
Bonjour.
Bonjour.
Et puis, urbanisme, les capitalistes n'hésitent jamais trop pour raser des quartiers.
Ensuite, ça sera l'occasion de faire notre chronique « Il faut que ça se sache ».
Et puis notre chronique scientifique avec ce soir « Tous les mystères de l'anus intermittent ».
Et ensuite, on fera un gros agenda et on finira par un petit conseil de lecture.
Eh bien, le Conseil constitutionnel algérien est-il un corps céleste? On ne sait pas. Mais validera-t-il surtout la candidature de Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat? Figurez-vous que l'institution a 10 jours pour se prononcer, mais il est déjà possible de repérer un indice sur ce qu'il risque de dire grâce au site internet. Puisque lundi dernier, le communiqué numéro 2 relatif à l'élection présidentielle de 2019 n'est plus accessible. Alors en réalité, des journalistes qui sont penchés sur l'affaire dès lundi ont pu le retrouver en cache sur le site. Et donc revérifier que le document précise bien que le dossier de candidature à l'élection présidentielle doit être déposé par le candidat, auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel contre accusé de réception. Le candidat donc a priori personnellement. Bon, il se fait que la candidature du président en fonction de la République algérienne a été déposée ce dimanche par son directeur de campagne, et donc pas par le candidat, sans la présence physique du candidat, évidemment, puisque Bouteflika était à ce moment-là, et est encore aujourd'hui, hospitalisé en Suisse. Alors, bon, on va pas encore revenir sur Bouteflika qui a eu un AVC terrible en 2012, qui en est resté à peu près momifié. Personne n'est trop certain qu'il est au courant lui-même de comment il s'appelle ou du fait qu'il est président de la République, mais que ça ne l'a pas empêché d'être réélu. Sur le fond, Bouteflika a... Alors, suite à ça et aux gigantesques manifestations pour protester contre le dépôt de sa nouvelle candidature... Et suite au dépôt de cette candidature, le Bouteflika a adressé alors lui-même ou des gens qui l'entourent et qui tirent les ficelles de cette marionnette à demi morte ont adressé ce dimanche une lettre au peuple algérien, mais signée par lui, dans laquelle il s'engage en cas de victoire à démissionner C'est-à-dire pas tout de suite. Il dit que s'il gagne, il va commencer par faire une grosse série de réformes très importantes pour le pays. Et puis après, il organisera une élection présidentielle anticipée à laquelle il ne serait pas candidat. Donc, il dit qu'il serait élu pour un demi-mandat, ou un quart de mandat, ou trois quarts de mandat, ou 9/10 de mandat, d'ailleurs, parce qu'il ne dit pas quand est-ce qu'il démissionnerait.
Oui, c'est une vaste arnaque.
Une vaste arnaque, une parmi des tonnes. Bon, résultat, les manifs ont repris immédiatement. En fait, on continuait. En fait, dès la nuit de dimanche à lundi, sa candidature a été déposée juste avant la date et l'heure limite, c'est-à-dire 20h dimanche soir. Tout de suite, dans la nuit de dimanche à lundi, grosse manif. Il y a encore eu hier des grosses manifs d'étudiants. Malgré cette promesse de démission, ces manifs ont fonctionné. Le général Gaïd Salah a hier tenté une autre tactique. Il a accusé la contestation d'être le fait de certaines parties. Alors ça, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais nos amis les plus complotistes pourront y mettre tout ce qu'ils veulent. Et que ces certaines parties seraient dérangées de voir l'Algérie stable et sûre et désireuse de ramener l'Algérie aux années de braise, c'est-à-dire une référence à la décennie noire de guerre civile, donc les années 90, pendant laquelle il y a eu officiellement 200 000 morts et qui a quand même laissé un sale traumatisme au pays. Cette menace du retour aux années 90, c'est globalement, souvent, depuis la fin de ces années, l'ultime argument du régime, c'est déjà sans doute celui, l'argument qui avait fait réélire le vieux chef d'État qui était déjà plus ou moins momifié en 2013. Et on peut se souvenir aussi que pendant cette décennie, les Algériens disaient que si on savait qui était tué, en tout cas c'était toujours très très difficile de savoir qui tuait. Parce qu'il y avait d'un côté les terroristes, les véritables terroristes, on ne disait pas encore djihadistes à l'époque, mais on disait islamistes. Ça c'est sûr. D'un autre côté, il y avait les militaires ou la police qui tuaient des terroristes, mais ce qu'il y avait aussi, et ça c'est petit à petit qu'on s'en est rendu compte, et il y a une série de révélations à la fin des années 90, au début des années 2000, il y avait la fameuse et la sinistre sécurité militaire, la SM, qui envoyait des tonnes de gens dans les maquis des terroristes et qui tuait aussi déguisés en terroristes. Donc finalement, cette sécurité militaire qui protégeait l'État se faisait à des tas de moments passer pour des terroristes, voire recrutait des gens qui pensaient eux-mêmes être réellement recrutés par les islamistes et qui se mettaient aussi à tuer. Ça a vraiment été une confusion gigantesque et une confusion qui était savamment entretenue aussi par le FLN à ce moment-là pour des raisons géostratégiques et essentiellement en réalité pour pouvoir dire aux Occidentaux et à la France en particulier, attention, notre pays court un très très grand danger, on a absolument besoin d'aide, de pognon, d'armes et de soutien international. Bon, toujours est-il que, sachant tout ça, quand on entend un chef d'état-major qui menace d'un retour aux années noires, ça fait quand même particulièrement froid dans le dos. Pourtant, il semble que ce coup-ci, contrairement aux élections présidentielles précédentes, ce coup-ci... Tout le monde en a marre, plus personne n'a envie d'entendre parler de cette histoire. Et puis les plus jeunes qui sont massifs dans les manifestations sont aussi des gens qui eux, n'ont pas de souvenirs directs et personnels de ces années-là. Peut-être que ça joue. En tout cas, aujourd'hui, journée tranquille, pas de manifestation. Demain, on n'est pas encore sûr, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde se réserve beaucoup pour vendredi, qui est traditionnellement le jour des plus grosses manifestations. Et ce vendredi, donc premier vendredi après le dépôt effectif de la candidature, tout le monde s'attend à ce que ça soit massif. Notons encore que l'ordre des médecins, alors que le président momifié est donc à l'hôpital en Suisse depuis plus de 10 jours, et donc on ne sait pas non plus quand il va revenir, l'ordre des médecins donc a mis la pression aujourd'hui au Conseil constitutionnel qui juge de la validité des candidatures à la présidence de la République. Tout en saluant le mouvement populaire pacifique actuel, l'ordre des médecins donc rappelle les règles de déontologie concernant la rédaction des certificats médicaux pour les candidats et indique que ceux qui les rédigent doivent être inscrits au tableau de l'ordre des médecins. Donc ça veut dire, attention, quand même... Mais ça c'est les toubibs. De l'autre côté, les avocats. Les avocats du barreau de Tizi Ouzou ont, dans une lettre ouverte publiée dans la presse, interpellé les membres du Conseil constitutionnel sur leurs devoirs en rappelant que les capacités physiques et mentales, conditions d'accès à la fonction de magistrat... pour tous les magistrats, ne doivent pas être éludés concernant les candidats à la magistrature suprême. Bon voilà, et autrement, la petite blague pour terminer, c'est que si la candidature est finalement validée, si Bouteflika est élu, eh ben, il n'en aura pas complètement fini avec les petites tracasseries du droit constitutionnel algérien, qui ne sont pas des tracasseries pour tout le monde, mais dans l'état où il est, pour lui ça va être un petit problème. C'est que selon la loi fondamentale algérienne, le vainqueur à l'élection présidentielle, ouvrez les guillemets, c'est le texte de la Constitution, ce vainqueur prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la nation dans la semaine qui suit son élection. Ça va être difficile a priori pour lui de le faire par procuration.
Canu Info. Du mercredi.
Et dans le Rhône, maintenant, un entrepôt géant d'Amazon va être peut-être construit. En tout cas, il y a un recours en justice qui a été déposé aujourd'hui contre ce projet par deux associations locales. C'est pour ça que j'en parle. Donc, il y a la Fédération des associations opposées aux nuisances en zone urbanisée et à l'augmentation du trafic routier et autoroutier de transit en région lyonnaise. Donc, Fracture, la première association. Et la deuxième, c'est l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, la Sénat. Voilà, ces deux associations. Donc, les opposants dénoncent les nuisances possibles, la pollution et la destruction d'espèces animales que la construction de l'entrepôt engendrait. Ça, c'est bien évidemment sur le recours en justice qu'ils ont déposé aujourd'hui. Donc, c'est quoi le projet ? Parce que je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il y avait un recours qui avait été déposé en novembre. Mais moi, je trouve que ça en a peu parlé. En tout cas, l'idée, c'est pour l'entreprise Amazon, donc entreprise américaine, de pouvoir implanter un centre international de logistique géant près de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry pour en faire son plus grand centre en France. Donc le bâtiment ferait 160 000 mètres carrés et donc on a du mal à imaginer 160 000 mètres carrés et en fait c'est 15 terrains de football réunis.
Ah oui.
Et vous voyez c'est quoi le travail d'Amazon ? Quand on travaille chez Amazon, en gros on marche dans des allées immenses pour prendre un produit, prendre un deuxième produit dans un autre rayon, l'amener devant pour qu'ensuite il soit acheminé par des coursiers. C'est ça Amazon concrètement. Et alors quelques arguments pour s'opposer à la construction de cet entrepôt. C'est donc Amazon parle de 1300 emplois créés, annoncés, mais les postes à venir sont pas des emplois classe qu'on peut être plutôt content de faire. C'est de la préparation de commandes, donc on propose aux gens de travailler comme pas mal des robots, et c'est des postes qui sont déjà en tension parce qu'ils ne trouvent pas de preneurs. C'est vraiment un endroit où les gens ont peu envie de travailler. Souvent les gens qui travaillent, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Et en plus, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois, Amazon se vantait des nouveaux robots qu'ils avaient mis en place. C'est des robots soi-disant, les robots ils sont toujours intelligents, mais attention, ça reste des robots qui sont créés par l'homme, en tout cas pour remplacer le préparateur ou la préparatrice de commandes. Donc c'est déjà ces histoires de 1300 emplois, ça fait se questionner. Et ensuite, ce projet va augmenter le trafic routier donc de 65% avec le passage de plus d'un millier de camions et de plus de 4500 camionnettes de livraison par jour, mais également avec l'intensification du fret aérien, surtout la nuit. Donc ça, c'est pour les personnes habitant à côté. Mais soyons clairs, ça ne suffit pas de dire pas de ça ici, en fait. C'est Amazon, c'est le monde techno-capitaliste qui est fort et puissant actuellement dans le monde entier. Donc l'idée de dire on ne veut pas ça en région lyonnaise, ça ne veut pas dire on veut qu'il soit ailleurs pour continuer à profiter des produits qu'on reçoit à la maison. Donc c'est pas en région lyonnaise, mais pas ailleurs non plus. Mais voilà, moi ça me fait penser ce genre d'information, c'est que Bah, c'est que qui n'a jamais commandé par Internet ? Vous voyez, là, j'imagine que tous les quatre autour de la table, on a déjà commandé des produits sur Internet, sur Amazon ou sur un autre site. Et en fait, en disant ça, je ne dis pas grand-chose, mais je trouve qu'il faudrait quand même réfléchir aussi à nos manières de consommer lorsqu'on parle d'Amazon.
Voilà. Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Alors bonjour, vous êtes deux qui étiez hier à ce rassemblement devant, pas la préfecture finalement, je me suis trompé en l'annonçant au départ, mais la DDCS. Vous êtes là, vous êtes les porte-parole d'un collectif. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ?
Alors, juste pour commencer, porte-parole, c'est peut-être un grand mot. On est juste là, on va parler surtout de ce qui est ressorti dans le collectif, mais aussi de notre expérience personnelle. On n'est pas là pour parler au nom de ce collectif. Donc la question, c'était ?
C'était ce collectif, c'est quoi ?
Alors, c'est des professionnels de l'urgence sociale qui, à force de partager des constats au sein de leurs associations, dans les couloirs, entre collègues, et de se rendre compte quand même qu'il y avait une dégradation des conditions d'accueil et qu'on n'arrivait pas vraiment à comprendre ce qui se passait, mais qu'on sentait qu'il y avait une dégradation qui s'accélérait. C'est dans toute la fin de l'année 2018. On a eu l'idée de se rassembler pour essayer de s'organiser collectivement entre des professionnels de plusieurs associations pour essayer de trouver, déjà à partager des constats, essayer de comprendre ce qui se passait, et ensuite trouver des solutions et essayer d'unir un peu nos forces pour essayer de combattre ces dégradations. Parce que c'est des dégradations à la fois dans nos conditions de travail, mais à la fois aussi, ce que je disais, mais dans les conditions d'accueil des personnes.
Pourquoi est-ce que tu parles d'accélération de cette dégradation ? Est-ce que vous pourriez préciser ?
Alors, si je parle d'accélération, c'est que, en tout cas, ça fait une dizaine d'années qu'il y a une inconditionnalité de l'accueil au niveau de l'hébergement d'urgence. Ce qu'on appelle inconditionnalité, ça veut dire que n'importe qui, il n'y a pas de critères, à part le fait d'être dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale. Ça, c'est c'est les conditions pour avoir accès à un hébergement d'urgence. Mais on n'a pas besoin d'avoir des papiers ou des ressources ou d'autres conditions. Donc ça, depuis 10 ans, c'était quelque chose qui existait. Alors, c'est pas directement mis en question, mais ce qui se passe, c'est un petit peu plus pervers, insidieux. C'est qu'en fait, en gros, la plupart des places qui sont dites urgentes, ça veut dire justement qui sont destinées à tout le monde, sont en train d'être transformées, sans qu'il y ait d'annonce officielle, sans qu'il y ait d'écrit, sont en train d'être transformées en places dites insertion. Les places insertion, en fait, c'est des places pour les personnes qui sont insérables. Et donc, ce qu'on entend par là, c'est des personnes avec des papiers et qui ont des ressources.
Et alors, ça, peut-être qu'on y reviendra après, mais ça veut dire que pour les personnes qui n'ont pas de papiers, par exemple, il y a plus de place, il y a moins de place. Comment est-ce que ça se passe ?
Bah, disons que là, on va vers moins de places, grosso modo. Et attends, comment dire ça ?
En tout cas, il y a plus de 900 places qui ont déjà été transformées depuis de l'hébergement d'urgence en hébergement d'insertion. Et à terme, ils annonçaient plus de 1500 places.
Alors, c'est des annonces à l'oral. Quand on parle de nombre de places, est-ce qu'on parle des places qui sont ouvertes toute l'année ou est-ce qu'on parle des places des différents plans froids, plans hivernaux ?
Non, places qui sont ouvertes toute l'année. Pour le plan froid, c'est encore autre chose, on peut aussi en parler, mais c'est d'autres chiffres.
D'accord.
Oui, c'est ça.
Alors, quelle est la différence entre, pour le coup, des places d'hébergement d'urgence et des places d'insertion ?
Sur les places urgences, c'est l'inconditionnalité, c'est dans le sens, c'est-à-dire que concrètement, c'est des places qui potentiellement, enfin, elles s'appellent l'urgence, mais ce qui est paradoxal, c'est que du coup, les gens peuvent rester longtemps sur ces places tant qu'une solution nouvelle ne leur est pas proposée. Du coup, c'est en ça, c'est que la situation présente un caractère urgent au niveau social, mais dans le temps.
Ils peuvent faire ça parce que la loi précise bien qu'une fois qu'ils sont hébergés,
C'est ça.
Ils peuvent rester jusqu'à ce qu'une solution leur soit proposée et qu'une solution assez bonne pour qu'ils l'acceptent.
Tout à fait.
Alors que sur des places insertion, il y a des contrats avec une durée de séjour, alors qu'ils peuvent être renouvelés, mais en tout cas, il faut vraiment s'engager à faire certaines démarches et on a un temps limité en fait pour, et après, on est censé sortir vers du logement autonome. C'est la différence avec ces places inconditionnelles qui sont régies sur les principes de l'inconditionnalité, c'est que les personnes, en effet, il y en a, ça fait 7 ans qu'elles sont sur des places d'hébergement, parce qu'elles n'ont aucune possibilité de sortir.
D'accord, et donc c'est ces places hébergement qui sont de moins en moins nombreuses, ça veut dire, du coup, si on supprime de ces places alors que les gens y restent longtemps, ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus personne qui peut avoir accès à de nouvelles places, enfin, ou très peu.
Alors de toute façon, l'État parle d'embolie du système de l'urgence sociale. Nous, c'est pas vraiment comme ça qu'on choisirait de présenter les choses. C'est juste qu'il y a un choix politique de favoriser la saturation du système d'hébergement pour bien montrer que c'est la faute des personnes, notamment sans papier, qui stagnent et qui restent, c'est entre guillemets le mot stagner, sur ces places d'hébergement très longtemps et qui embolisent le système. Comme dit l'État, mais en fait c'est un choix politique qui est fait de les laisser et de pas leur donner des papiers.
Ça, on se souvient qu'on a déjà entendu parler l'hiver dernier avec cette histoire de circulaire Collomb qui devait autoriser les flics à rentrer dans les centres, à contrôler les gens et soi-disant à rien en faire après. Ça, on en est où de cette histoire-là?
Elle est appliquée dans certains départements.
Pas
dans le Rhône, mais à Sauf-Erreur en Haute-Savoie, Savoie et peut-être en Ardèche. C'est des informations qui ne sont pas très fiables, mais dans des réunions où j'ai pu avoir accès à ce type d'informations.
Parce que ça serait que théoriquement, elle est appliquée partout, mais que dans la plupart des départements, les structures refusent, ou comment ça se passe?
Alors, elle n'est pas du tout appliquée partout, parce qu'il y a quand même... elle a été quand même retoquée.
Ah, elle a été retoquée.
Je ne sais plus exactement quand est-ce que... Le Conseil d'État l'a retoqué, mais c'était se faire au cours du printemps 2018.
Oui, c'est ça.
Et y a une partie, en tout cas, des dispositions qui ont été jugées comme illégales, comme le fait d'obliger les personnes à se présenter aux personnes de la préfecture et qu'on les oblige à donner leurs informations. Ça, par exemple, ça a été retoqué et c'est sur la base du volontariat. C'est comme on ne peut pas forcer des professionnels à donner des informations comme ça à des personnels de l'OFI.
Oui, sachant que les professionnels en centre d'hébergement, ils sont soumis au secret professionnel, qu'ils n'ont pas à communiquer des informations personnelles sans l'accord des personnes.
Et sauf dans des cas très rares d'enquête au niveau pénal, mais... Et encore, ça se discute, il y a des positions d'associations qui choisissent de ne pas le faire, quoi.
Ça veut dire que du coup, c'est les quelques départements où c'est appliqué qui sont dans l'illégalité.
En tout cas, c'est des choix de préfecture. Et c'est pas totalement dans l'illégalité, ils ont sûrement dû trouver on sait pas exactement la manière qu'ils ont trouvé de mettre en application, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a des équipes de l'OFI et de la préfecture qui rentrent dans les centres. Après, à voir ce qu'ils y font, est-ce qu'ils font juste des réunions d'information, est-ce qu'ils viennent récupérer des données, ça c'est quand même pour pas diffuser des fausses rumeurs.
D'accord.
Il y a des départements où c'est pareil, l'inconditionnalité de l'accueil elle est absolument pas appliquée.
C'est déjà en vigueur sur certains départements.
Et alors, cette histoire d'inconditionnalité, c'est l'inconditionnalité et la continuité qui sont remises en question?
Alors la continuité totalement, par contre. Ça, c'est sûr que oui.
Parce que comment est-ce que ça se passe si on n'est pas insérable, par exemple parce qu'on n'a pas de papier et qu'on est dans la rue et qu'on cherche à dormir quelque part? Comment ça se passe?
Alors, on conseille aux gens d'appeler le 115. Sachant que c'est un numéro qui est saturé, où il y a peu de places d'hébergement possible.
De faire une demande à la maison de la veille sociale. Une demande d'hébergement. Voilà.
En moyenne, pour une famille avec enfants en situation régulière, donc avec des papiers, c'est 8 mois d'attente.
D'accord.
Voilà.
Là, on parle de familles insérables et du coup, des familles qui ne seraient pas insérables.
C'est entre 1 an et demi et 3 ans d'attente, ça fait rien, non?
Oui, à peu près.
Ouais.
Mais ça fait déjà de nombreuses années que c'est comme ça.
Et donc la nouveauté de maintenant, celle qui fait par exemple que vous avez organisé ce rassemblement hier.
Alors la nouveauté, c'est le fait qu'il y a une volonté de généraliser un petit peu la non-continuité de l'accueil. Jusqu'à maintenant, c'était depuis une dizaine d'années, les personnes, elles pouvaient rester sur leur place d'hébergement, elles étaient parmi à la rue chaque nuit. Et il y a de nouveau des nouveaux dispositifs qui apparaissent qui fonctionnent sur un système où les personnes sont hébergées de temps en temps, mais où elles sont remises à la rue le matin. Ce qui va à l'encontre du code de l'action sociale et des familles, qui va à l'encontre de la loi. Mais c'est des dispositifs qui sont à la marge pour le moment, mais qui tendent à se généraliser. Donc c'est aussi pour ça qu'on choisit de se mobiliser, parce qu'on n'a pas envie que toutes les places se transforment, les places d'urgence se transforment sur ce modèle-là.
Et alors, comment ça peut se passer légalement, pour le coup, de faire quelque chose qui est aussi évidemment à l'encontre de la loi que de remettre les gens dehors, alors que la loi précise qu'une fois qu'ils sont hébergés, ils peuvent rester hébergés?
Alors, il faut encore que ce soit prouvable, que des personnes déposent des recours. Il y a plusieurs types de recours, mais les personnes peuvent faire des DAO, donc c'est faire valoir son droit à l'hébergement opposable. Mais c'est des démarches qui ont peu de chances d'aboutir si la personne n'est pas dans une situation de vulnérabilité vraiment particulière. Parce que l'État n'a pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Donc si l'État prouve qu'il a essayé de mettre les moyens en place, en fait, globalement, les personnes n'ont pas gain de cause. Donc c'est quand même extrêmement complexe. Il y a une jurisprudence qui est assez négative sur la question depuis quelques années. Et donc, non seulement les avocats sont un petit peu plus frileux pour attaquer l'État et essayer d'avoir gain de cause sur cette question-là. Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de s'organiser en collectif et d'essayer plutôt d'alerter et de sensibiliser. Et parce qu'au niveau juridique, ça ne marche plus, en fait, de saisir la justice sur ces questions. En tout cas, il va falloir trouver d'autres manières. Ce sera aussi peut-être une voie qu'on prendra, mais il va falloir inventer de nouvelles manières.
Sachant que également l'accueil inconditionnel et la continuité sur l'agglomération lyonnaise avaient été aussi pas mal appuyés par les mouvements de travailleurs sociaux, justement sur ces questions-là, qui avaient réclamé son application au niveau légal.
Alors hier, vous étiez devant la préfecture. Est-ce que vous avez été reçu par la préfecture ?
Dans la DDC.
Non, dans la DDC, bien sûr.
Après, c'est un peu le même organisme.
Hein. Tout ça. Mais, oui, il y a une délégation qui a été reçue. On était plutôt étonnés. Et qui a pu parler pendant une heure de blabla politique.
Oui.
Où, en gros, ce qui a été dit, c'est qu'ils comprenaient tout à fait ce qu'on disait. C'est vrai que des personnes à la rue, c'est inhumain comme situation. Mais il n'y a aucune de nos revendications qui ont été entendues, oui, mais en tout cas aucune n'a été satisfaite.
Il y a vos revendications qui étaient
déjà l'hébergement immédiat de toutes les personnes à la rue sans condition
d'accès. Parce que là par exemple sur l'agglomération lyonnaise, on parle de combien de personnes qui sont à la rue et qui dorment réellement dehors chaque soir? Je veux pas un chiffre précis, mais un ordre d'idée.
Or, ça serait environ 1800, on peut dire en moyenne, selon les chiffres du 115. Mais du coup, c'est les taux d'appel décrochés, qui sont d'environ 70%, plus ceux qui, dont les appels ne sont pas décrochés, plus ceux qui se sont découragés. Donc, en tout cas, on est à plus de 1800. Mais on serait plutôt entre 1800, peut-être. 2000,
ouais. Il y a 3 ans d'attente, on peut dire que ces gens-là ne téléphonent pas au 115 chaque jour pendant les 3 ans en question.
Oui, je pense que c'est une supposition plutôt réaliste, oui.
Globalement, les gens se découragent au bout d'un moment, en effet. Mais c'est le risque aussi de voir sa demande enterrée, donc c'est un cercle vicieux aussi.
Oui, ça veut dire que si on est dans cette situation, il faut s'astreindre à téléphoner chaque jour pendant les 3 ans.
Notamment si on est dans l'optique de faire un recours, Où là, c'est sûr que d'avoir, il suffit d'avoir 15 jours d'appel au 115, mais c'est bien de le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir un an d'appel pour pouvoir déposer son recours. Mais juste pour continuer sur nos revendications, nous, c'est vraiment de l'hébergement immédiat de toutes les personnes à la rue sans condition. Alors, ce qui nous a été dit à l'aide des DCS, a priori, on n'a pas encore le compte-rendu de toute la délégation qui a été reçue, juste un compte-rendu oral, mais c'est qu'il n'y a pas de place. Alors ça, c'est quand même faux. Il y a un nombre incalculable de bâtiments qui pourraient être réquisitionnés au niveau de l'agglomération lyonnaise. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, ça serait possible. C'est des choix, encore une fois, c'est des choix politiques. Et ce n'est pas une question de moyens.
De bâtiments, il y a des tonnes, y compris de bâtiments publics.
Et de bâtiments publics, voilà.
C'est que ce n'est pas la peine d'aller réquisitionner dans le privé, ce qui est aussi possible légalement. Mais que là, juste avec des bâtiments publics, on pourrait déjà s'en sortir.
Oui. Après, nous, ce qu'on demande aussi, c'est l'application stricte de la loi sur les questions de l'inconditionnalité et de la continuité de l'hébergement. Parce que cette loi, elle a pu être possible suite à des luttes d'il y a une dizaine d'années et qu'elle... C'est pas l'idéal, puisque en termes de moyens, l'État ne suit pas, mais en tout cas, ça permet de respecter un minimum le droit des personnes.
C'est ça.
Et après, revendications.
Ensuite, du coup, il y avait l'arrêt des coupes budgétaires pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et la revalorisation des budgets pour tout le secteur de l'urgence sociale. Parce que du coup, c'est vrai que là, il y a un nouveau cap politique qui est celui du logement d'abord et du un chez soi d'abord. Donc, avec une baisse de financement de l'hébergement pour aller vers le logement, pour cesser du coup l'idée qu'une personne accède à l'hébergement avant de pouvoir accéder au logement. Donc c'est ce parcours un peu en escalier, un peu méritocrate et bon, cette remise en question de l'accès à l'hébergement comme condition à l'accès au logement pour les personnes, elle n'est pas forcément inintéressante si elle n'excluait pas du coup toutes ces personnes qui n'ont pas forcément de papier ou qui sont en situation irrégulière concrètement.
Et cette politique de logement d'abord, elle va être financée non pas par des budgets qui auraient été débloqués exprès pour ce nouveau projet, mais sur les fonds des CHRS, justement, des centres. C'est pour ça qu'on parle de coupes budgétaires drastiques pour les CHRS. C'est justement, on va prendre...
De réinsertion sociale, ce qu'on appelle les foyers.
C'est ça.
Une partie des foyers, en tout cas. Et c'est pour ces personnes... C'est sur ces centres, les budgets de ces centres qu'on va prendre pour mettre sur le logement d'abord.
Ça veut dire qu'on supprime des places en foyer, pour le dire comme ça. Pour avoir des appartements pour d'autres gens, globalement, ou en partie les mêmes.
En partie les mêmes, sachant que normalement, c'est des personnes qui sont repérées directement, qui sont directement depuis la rue, qui ne seront pas passées par ce système en escalier. Donc, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. Le Rhône, c'est une région qui est, enfin, c'est un département qui est pilote, mais concrètement, il n'y a rien qui est vraiment encore en place. Il manque de place en termes de logement, pour le coup.
C'est qu'il y a une saturation du coup du parc social, parce que quand on voit le délai anormalement long pour pouvoir faire un DALO dans le Rhône, il est de 2 ans.
Donc accéder à un logement social.
Donc il est excessivement long et du coup là les bruits de couloir, ça serait d'accompagner dans la recherche dans le parc privé, sauf que bon, on connaît les conditions du parc privé, qu'il n'y a toujours pas de régulation des loyers. Donc pour des publics précaires, ça risque quand même d'être effectivement très compliqué au niveau des conditions de vie par la suite. On peut dire ça comme ça.
Mais ça veut dire que bon, là déjà, on a quand même beaucoup de gens qui dorment dans la rue. On a quand même les bidonvilles qui sont réapparus, en tout cas dans l'agglomération lyonnaise, vers le milieu des années 90, alors qu'il y a eu une période où quand même, globalement, tout le monde arrivait à dormir quelque part. Mais là,
Il y a aussi tous les squats.
Il y a aussi tous les squats. Et là, on est en train d'aller vers une multiplication de ça, des squats, des bidonvilles et des gens qui dorment sur les bancs.
C'est aussi pour ça que dans le rassemblement hier, il y avait d'autres collectifs qui sont venus apporter leur soutien à notre mouvement et qui ont tout à fait leur place et dont on soutient aussi les revendications, comme les collectifs qui soutiennent, enfin, d'habitants et d'habitantes de l'Amphiz, de Nelson Mandela et de la Trappe, et aussi du collège Maurice Sève. Après, il y avait aussi d'autres collectifs de professionnels de la métropole qui font face aux mêmes politiques. En fait, c'est aussi pour ça que ce mouvement-là, il peut prendre de l'ampleur, parce que tout le monde se retrouve face au même constat. Et que c'est vraiment tout lié, justement, en effet, avec les habitats précaires et qui se multiplient sur l'agglomération due aux politiques.
Et du coup, dans les revendications, donc, il y avait la participation des travailleurs sociaux et des personnes concernées au choix des politiques sociales. Et aussi, plutôt que le logement d'abord, le logement pour tous.
Oui, puisqu'au final, le slogan qui était en vigueur quand même dans les 20 dernières années a complètement disparu pour être remplacé par... vraiment, il y a un discours... très fort du gouvernement là-dessus, sur le logement d'abord, c'est censé nous faire changer de paradigme, nous réapprendre à travailler. Et en fait, alors que c'est des choses qui existent déjà et qui faisaient partie des revendications aussi des travailleurs sociaux depuis longtemps.
Mais que dans la bouche du gouvernement, ça veut surtout dire laisser des gens sur le carreau.
C'est ça, oui.
Est-ce que vous avez d'autres actions prévues pour le futur ? Est-ce que, par exemple, des travailleurs sociaux, sociales qui nous écoutent et qui seraient en train de se laisser convaincre, il y a moyen de vous rejoindre ?
Oui, alors on a une prochaine réunion le 13 mars à la Bourse du Travail à 19h. Donc il y aura une petite affiche qui indiquera la salle, on ne sait pas encore. Et après, on a prévu un futur mouvement de grève a priori et d'autres actions à venir.
D'accord, qu'on apprendra en temps voulu.
En écoutant Radio Canu ou en lisant Rébellion et les autres médias qui voudront bien passer nos messages.
D'accord, et ben, on vous remercie d'être venu ce soir.
Merci.
Merci.
Canu Info. Alors, nous sommes en direct sur le Canu Info de ce mercredi. On est le combien déjà ? Le 6 mars. Et donc, je vais enchaîner en parlant d'urbanisme. Parce que les capitalistes, quels qu'ils soient partout sur la planète, n'hésitent jamais trop pour raser des quartiers. Donc on parle souvent des grands projets inutiles, vous voyez, comme il y a pu avoir le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou de gentrification des centres-villes par des écorquartiers, comme il y a pu avoir sur le quartier Perrache et des confluences à Lyon. Des projets assez répugnants, ou comme à Marseille cet automne, foutre à la rue des centaines de personnes pauvres sous prétexte d'insalubrité de logement que la ville a fait exprès de laisser pourrir. Bref, des processus de modification urbaine qui sont plus ou moins rapides et plus ou moins violentes en fonction donc des politiques des villes et en fonction des formes de capitalisme promues par des États. Et pourquoi je fais cette intro, c'est que j'ai trouvé un article paru hier sur squat.net qui raconte comment le quartier squatté de Kapora Rai en Guinée-Conakry a été entièrement démoli par l'État en un mois. Donc ça a commencé en fait début février 2019 à Ratoma, une des 5 communes constituant la ville de Conakry, où Ibrahima Kourouma, le ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, a annoncé son intention de faire nettoyer le site du centre directionnel de Koloma, c'est-à-dire détruire tout un quartier squatté où vivent des dizaines de personnes. Et surtout que, vous voyez, c'est pas des personnes riches qui habitent ce quartier, c'est plutôt des personnes pauvres. Donc l'expulsion, destruction de ce quartier a débuté le mardi 19 février, donc juste après, 2 semaines après, c'est vraiment court. Et donc le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire s'est cette fois déployé avec des chefs de la Gendarmerie Nationale et de la Justice Ministère, ainsi que tout un paquet de soldats en armes et des machines du génie militaire pour démanteler les engins, voitures qui se trouvaient dans le quartier. Dans un premier temps, le pouvoir a donc détruit des objets, des véhicules, puis des kiosques, des bars cafés, des petits commerces, et ils ont épargné les habitations. Donc comme souvent lors de telles circonstances, le ministre Ibrahima Kourouma a tenté de justifier cette action de démolition en la faisant passer pour une action d'intérêt commun pour les plus riches. Je vous lis pas la citation parce que c'est vraiment ce truc de la mobilité, le déplacement pour aller au travail. Donc ça s'adresse à une classe moyenne classe élevée ou gens qui ont les moyens de d'utiliser des tout un tas de transports. Donc, dans un article publié sur guineanews.org, certaines habitantes ont bien compris le message, mais c'est pas comme si les solutions de rechange étaient toutes trouvées. D'autant que plusieurs y ont passé quasiment toute leur vie dans ce quartier, y ont grandi et n'ont aucune idée ni aucun moyen pour aller s'installer ailleurs. Pas de finances pour louer un appartement dans d'autres quartiers de Conakry. Le jeudi 21 février, donc deux jours après, les démolitions ont repris de plus belle, s'attaquant cette fois à toutes les constructions du quartier, des boutiques, des bars, les ateliers de couture, les garages, les hangars, les restaurants et les maisons d'habitation. Et le 4 jours après, le 25 février, les démolitions ont redoublé d'intensité, touchant cette fois principalement des habitations. Et à partir de ce moment-là, donc il y a une révolte qui a éclaté dans le quartier parce que les habitants, au bout d'un moment, de se faire triturer, lessiver tels qu'ils ont été, ils se défendent. Et les forces anti-émeutes se sont déployées et ont fait usage de gaz lacrymo pour disperser la foule, rendant la tâche encore plus compliquée à celles et ceux qui tentaient de réunir quelques affaires personnelles avant de partir de chez elles. Et début mars, la zone est devenue un vaste champ de ruines. Donc, même les écoles du quartier sont démolies. Comme on peut le lire dans un article d'AfricaGuinée.com. Le quartier, je cite, « Le quartier vit au rythme des bruissements des caterpillars de l'armée qui rasent tout sous les yeux impuissants donc, des habitantes. » Voilà pour cette information pour montrer comment un quartier peut être détruit en un mois. Dans la rapidité et l'intensité, c'est vraiment d'une violence forte, mais les logiques des capitalistes par rapport à l'urbanisme sont les mêmes partout, c'est-à-dire virer les pauvres pour que des plus riches puissent s'installer pour faire de la spéculation immobilière.
Radio Canu 102.2,
plus rebelle des radios.
Chut, écoutez.
À tout moment, il peut venir te prendre pour les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à l'expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place.
C'est ça,
Pèlerinage, blabla, info, entre la machine.
contre la machine à expulsion. Ce jingle est coupé avant la fin. Donc, deux informations, ou trois même, ce soir dans cette rubrique.
Alors, on va aller à Calais où une centaine de migrants qui voulaient rejoindre, bien sûr, le Royaume-Uni, avaient investi samedi dernier, le samedi soir, le port de Calais. Une cinquantaine d'entre eux avaient réussi à grimper à bord d'un ferry dont ils avaient ensuite escaladé la cheminée. Et lundi matin, une de ces personnes, un homme originaire du Mali, considéré comme le meneur de cette incursion, a été condamné à 4 mois de prison ferme en France et incarcéré. L'homme jugé en comparution immédiate était poursuivi pour embarquement frauduleux à bord d'un navire, introduction non autorisée dans une zone d'accès restreint, ainsi que refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique, puisqu'il avait refusé de donner ses empreintes digitales pendant sa garde à vue. Et alors, de manière rigolote, non, ironique peut-être, ou peut-être juste éhontée, la procureure a insisté pendant son procès sur la dangerosité de l'acte de ce Malien qui, selon elle, a entraîné le groupe à sauter par la balustrade de la cheminée du ferry. Alors voilà, reste à savoir qui crée la dangerosité entre le migrant qui essaye coûte que coûte de passer et qui, alors on ne sait pas dans quelle mesure dans la réalité, parce qu'on sait bien que ce qui se raconte entre ce qui se passe dans la réalité et ce qui se raconte dans les tribunaux, il peut y avoir un monde, mais peut-être entraîne ses camarades à le faire collectivement. Donc est-ce que, à propos de dangerosité, c'est plutôt lui ou plutôt les politiques migratoires européennes qui ferment les frontières et qui font que, par exemple, pendant l'année 2018, au moins 2260 personnes sont mortes noyées dans la Méditerranée. Et il ne s'agit là que des gens qu'on a réussi à comptabiliser, c'est-à-dire qu'en réalité, il y en a eu énormément plus. Voilà, qui est plus dangereux. En tout cas, les ministres de l'Intérieur européens, pour l'instant, ne sont condamnés à aucune peine de prison. Et puis à Calais, cette question revient, qui est un petit peu ancienne, mais qui revient encore et toujours, en particulier par les bénévoles des différentes associations d'aide aux migrants, sur le fait de savoir si, dans quelle mesure est-ce que la préfecture profite des heures de distribution de repas pour bousiller les campements. Les opérations de démantèlement des campements illicites à Calais ont lieu le matin, généralement avant midi, une plage horaire pendant laquelle les migrants désertent souvent leurs tentes pour se rendre aux distributions de petits déjeuners situés généralement à plusieurs kilomètres des différents camps. Et donc, est-ce que la police profite de l'absence des gens ? Non, affirme la préfecture. Depuis plusieurs mois, les associations d'aide aux migrants, parmi lesquelles les fameuses Utopia 56 ou l'Auberge des migrants, reprochent à la préfecture du Pas-de-Calais de détruire quotidiennement les campements illégaux de migrants à Calais tous les jours entre exactement 8h30 et 10h30. Pendant ces deux heures-là, beaucoup de migrants se rendent vers les lieux où l'on sert des petits déjeuners, c'est assez loin de leur tente et de leur campement. Les distributions de nourriture sont effectivement organisées à différents endroits de la ville de Calais. Et alors, par exemple, si on veut aller à pied du camp Marcel Dorvay à la distribution organisée rue des Huttes, qui est l'endroit le plus proche, et ben c'est une vingtaine de minutes à pied, donc le temps d'y aller, de faire la queue pour avoir à manger, etc. etc. Le temps d'absence des migrants peut donc être long. Il n'y a aucune corrélation entre les opérations de police et les distributions de repas le matin. Et ça, bien sûr, c'est la préfecture qui nous le dit. Les forces de police n'attendent pas la désertion des camps pour procéder au démantèlement. Selon le sous-préfet, les opérations de police se déroulent le matin pour des questions d'organisation, tout bêtement. Et puis, les tentes qui sont vides à ce moment-là sont quand même considérées comme abandonnées, ce qui permet de les embarquer en risquant... Pas que quand il y a des gens, ça les empêche vraiment de les foutre dehors. Mais disons que c'est un peu plus facile de dire « Ah ben non, elle était vide, c'était un objet abandonné sur la voie publique. » Et voilà. Alors, une bénévole explique que certains migrants peuvent hésiter pour le coup à se rendre aux distributions. C'est un peu le dilemme, soit tu manges, soit tu gardes ta tente. Un autre raconte au site Info Migrants, quand les forces de l'ordre arrivent à 8h30, elles laissent un peu de temps aux personnes qui sont présentes pour rassembler leurs affaires, mais ceux qui ne sont pas là, en revanche, ne retrouveront rien. Le sous-préfet, bien sûr, explique que ce n'est pas vrai. Lors des démantèlements, ceux qui sont absents peuvent récupérer leurs affaires personnelles, type documents administratifs. C'est un endroit qui s'appelle la ressourcerie. Et bah oui, tiens, bien sûr, certainement, on le croit. Et les flics font toujours le travail dans les règles, c'est bien connu. Et la terre est plate.
Et ça fait aussi, quand même, on peut le dire, des années que ce genre de, d'agissement se passe. Là, il parle de quelques mois, les associations, mais en vrai, c'est depuis des années, qu'il y a de la répression à Calais, et notamment quand il y a des cuisines qui s'autogèrent sur les lieux de campement. Elles sont systématiquement, c'est avec les premières choses démontées par la police sous prétexte qu'il y a une bouteille de gaz pour faire de la cuisine, etc. Donc même quand il y a une auto-organisation des personnes, c'est des initiatives qui sont cassées.
Bah, disons que globalement, Calais est à la pointe d'une sorte de, d'expérimentation multiple qui est un peu l'idée est de rendre la vie vraiment invivable et vraiment pénible à chaque instant pour les migrants qui sont là-bas. Et malgré ça, et bah, y a toujours, malgré ça et malgré vraiment toutes les à des moments les opérations massives pour dégager les gens, etc., il y a toujours des tonnes de gens qui sont là et qui essayent de passer en Angleterre. Autant dire, c'est aussi une... Calais en soi, c'est une démonstration gigantesque que toutes ces politiques de répression sont juste parfaitement, en plus d'être inhumaines, sont parfaitement inutiles. Bon voilà, selon Utopia 56, plus de 110 démantèlements ont eu lieu depuis le 1er janvier 2019, c'est-à-dire 110 opérations d'aller piquer les tentes des gens. C'est presque un rituel selon une des bénévoles, une cadence élevée qui est de toute façon confirmée pour le coup par le sous-préfet.
Il faut que ça se sache.
Et maintenant, une fois n'est pas coutume dans ce Canu Info, on va rêver. Oui, on a toujours des infos de merde et là, bah, on va faire une petite chronique scientifique. Donc il y a un professeur de biologie à l'université de Boston qui vient de découvrir l'anus transitoire. Donc en fait, il a observé le céthanophore qui s'appelle, j'imagine en latin, Myopsis laidi. Et en fait, bon, qu'est-ce que c'est le cénophore là? En fait, c'est un petit animal marin qui ressemble à une méduse, vous voyez, transparent, et faisant partie du macroplancton, donc des micro-trucs dans les profondeurs marines, et donc qui possède un anus qui apparaît lorsqu'il a besoin de se soulager et qui disparaît une fois sa crotte terminée, mais qui disparaît, qui est indétectable à l'œil nu. C'est un peu fou. Donc c'est une nouveauté dans l'observation du règne animal, donc selon ce scientifique, et dans le domaine des recherches donc scientifiques, cela enthousiasme aussi beaucoup de personnes car le port anal éphémère de cette bestiole pourrait leur en apprendre énormément plus sur la défécation, vu qu'il semble bien représenter un stade jusqu'ici inconnu de l'évolution des fonctions excrémentielles. Donc voilà, peut-être un jour on se fera mettre des anus invisibles, je sais pas. Moi je trouve que ça pourrait aussi permettre d'en apprendre un peu plus sur l'invisibilité, parce que s'il y a la possibilité de disparaître, bah, c'est une fonction qu'il a aussi à l'intérieur. Mais bon, ça, c'est pas mentionné dans l'article. En tout cas, j'ai hâte de voir ça au cinéma dans quelques années.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et donc, on va faire un agenda chronologique. Donc d'abord, une journée contre les frontières et leur prison sur le campus de Bron, c'est demain, jeudi 7 mars, de 10h jusqu'à 20h, de la ZIC, des projections, des débats et des témoignages contre l'Europe forteresse, les centres de rétention administrative, les frontières, la justice bourgeoise. Vous pouvez trouver plus d'infos sur rebellion.info. Et maintenant, nous allons vous lire un extrait de l'appel international à une grève transféministe lancé par Non Una Di Meno. C'est une assemblée italienne qui lutte contre le système d'oppression patriarcale, raciste et capitaliste. À vous, nos invités.
Le 8 mars, sur chaque continent, au cri de « pas une de moins » sera jour de grève féministe. Nous interrompons toute activité de travail et de soins, formelle ou informelle, gratuite ou rétribuée. Nous portons la grève sur les lieux de travail et dans les maisons, dans les écoles et les universités, dans les hôpitaux et sur les places. Nous croisons les bras et refusons les rôles et les hiérarchies de genre. Nous stoppons la production et la reproduction de la société. La grève est la réponse à toutes les formes de violence qui touchent systématiquement nos vies, en famille, sur les lieux de travail, dans la rue, dans les hôpitaux, dans les écoles, à l'intérieur et à l'extérieur des frontières. Féminicides, viols, insultes et harcèlement dans la rue et sur les lieux de travail, violences domestiques, discrimination et violences sur les femmes handicapées, le permis de séjour subordonné au mariage, obstacle infini pour accéder à l'avortement, pratiques médicales et psychiatriques violentes sur nos corps et sur nos vies, précarité qui devient double charge de travail et salaire diminué. Contre cette violence structurelle qui nie notre liberté, nous faisons grève.
Nous faisons grève dans le monde entier contre l'essor des droites réactionnaires qui nouent un pacte patriarcal et raciste avec le néolibéralisme. Nous appelons quiconque refuse cette alliance à faire grève avec nous le 8 mars. Du Brésil à la Hongrie, de l'Italie à la Pologne, les politiques contre les femmes, les lesbiennes, les trans, la défense de la famille et de l'ordre patriarcal, les attaques contre la liberté d'avorter vont de pair avec la guerre ouverte contre les personnes migrantes et les Roms. Patriarcat et racisme sont les armes d'une exploitation sans précédent. Père et patron, gouvernement et église veulent tous nous remettre à notre place. Mais nous, à notre place, nous ne voulons pas y rester et pour cela, nous faisons grève le 8 mars.
Nous revendiquons un revenu d'autodétermination, un salaire minimum européen et un système de soins universel. Nous voulons un avortement libre, assuré et gratuit. Nous voulons autonomie et liberté de choix sur nos vies. Nous voulons redistribuer la charge de travail de soins. Nous voulons être libres d'aller où nous voulons sans avoir peur de nous soulever contre la violence raciste et institutionnelle. Nous voulons un permis de séjour européen sans condition. Ces mots d'ordre rassemblent la force d'un moment global. Le 8 mars, nous faisons grève.
Avec la grève de la consommation, nous réaffirmons notre volonté d'imposer un changement de système qui dessine une autre manière de vivre sur la Terre, alternative à la guerre, aux colonisations, à l'exploitation de la Terre, des territoires, des corps humains et animaux. Avec la grève du travail productif et reproductif, nous bloquerons chaque secteur dans lequel se reproduit la violence économique, psychologique et physique sur les femmes.
Pas une de moins est le cri qui exprime cette force et cette voix. Contre la violence patriarcale et raciste de la société néolibérale, la grève féministe est la réponse. Nous faisons grève pour inventer un temps nouveau.
Merci beaucoup. Et donc, le 8 mars à Radio Canu, c'est également les émissions Lilith, Martine et les autres et On n'est pas des cadeaux qui fêtent leurs 10 ans et demi. Et je vais passer tout de suite le jingle d'annonce.
10 ans et demi, l'enfer n'est pas fini. Les filles sages vont au paradis.
Les autres vont où elles veulent.
Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Parce que je pense qu'il y a un lien entre le pouvoir et la virilité.
C'est évidemment une menace pour l'humanité. Une menace pour l'humanité.
Les filles sages vont au paradis.
Les autres vont où elles veulent.
On n'est pas des cadeaux.
Lilith, Martine et les autres, l'émission féministe à l'heure du thé.
Rassurez-moi.
C'est-à-dire
que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes.
Et bien sûr que si, sinon il se dilapide. Les femmes sont les régentes. C'est dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça.
Oui, mais il faut le
partager. Elles n'expriment pas le pouvoir. Elles n'incarnent pas le pouvoir. C'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Le masculin est lié au pouvoir. Et quand le féminin domine...
Et les valeurs féminines, elles sont incompatibles avec le pouvoir.
Elles sont incompatibles avec, oui, l'incarnation du pouvoir.
L'absurdité.
Le 8 mars 2019, de 17h jusqu'à pas d'heure.
Nous allons mettre le feu.
Venez dans les studios contribuer à une ambiance radiophonique d'enfer.
Enfer pour les NTPG, Mère,
Gwyn,
France,
PD.
Ouais.
Et pour tout le monde, branchez vos postes sur le 102.2 FM.
Juste qu'on arrête de lui raconter des histoires.
Voilà, vous avez reconnu la personne qui disait ces paroles aussi terribles, qui n'est autre qu'Éric Zemmour. Et donc, dimanche 10 mars, il y a un atelier d'imagination au centre LGBTI de Lyon, 19 rue des Capucins, de 14h à 18h. En fait, c'est les ateliers de l'Antémonde qui proposent un labo fiction. C'est inventer des futurs désirables afin de rendre contagieuse la passion pour la fabrication de fiction politique, critique et enthousiaste. Venez, en fait, on s'amuse beaucoup dans ce genre d'atelier. Sinon, la semaine prochaine, c'est la journée de lutte contre les violences policières et ça sera mercredi prochain, le 13 mars à 13h. Et je voulais rappeler que Fatih et Adam, deux jeunes de 17 et 19 ans ont trouvé la mort dans la nuit de samedi dernier suite à une course-poursuite menée par la BAC alors qu'ils étaient en scooter. Ils ont été percutés par un bus sur le pont de Catane. Je cite, vous pouvez écrire que la police est responsable de leur mort, a expliqué un proche des victimes en sortant du palais de justice de Grenoble ce dimanche. De leur côté, le parquet met en avant la thèse d'un accident comme hypothèse principale, bien relayée par les grands médias. S'il est clair que les circonstances exactes sont encore à déterminer, évoquer une mort accidentelle équivaut, en définitive, à dédouaner les forces de police de toute responsabilité. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche, à Grenoble, la situation a monté en tension après l'intervention de la police suite à un appel à un rassemblement vers le lieu du drame. Un commissariat a été pris pour cible par une trentaine de personnes ainsi que des voitures qui ont été brûlées avant que ne soit mis en place un dispositif policier renforcé où du coup des gens se sont fait défoncer. Et donc face à cette colère légitime, le procureur de Grenoble s'est empressé d'écarter toute responsabilité policière dans la mort des deux jeunes, mettant en avant le fait que ceux-ci ne portaient pas de casque et auraient commis des infractions de la route, comme s'il s'agissait d'un vulgaire accident de la route quand il s'agit de course-poursuite avec la BAC. Donc rendez-vous pour le départ de la manif à 13h au départ de la place Guichard, Lyon 7e. La semaine prochaine, mercredi 13 mars.
Mais alors, pas du tout, en réalité, c'est le samedi 16.
Ah, et ben j'ai. Elle est... L'info est erronée sur Internet. Donc, samedi 16 mars, parce que, je sais pas, moi j'ai lu ça tout à l'heure sur rebellion.info. En tous les cas, cette manif n'est pas reliée aux deux personnes de Grenoble, mais c'est contre les violences policières plus globalement, parce que y a beaucoup de crimes policiers et qu'on ne cessera jamais de les dénoncer. Et je n'ai pas le temps de faire le conseil de lecture que je voulais vous faire. Je vous souhaite.
Mais alors, sur la date de cette manif, finalement, de coup d'œil affolé en coup d'œil dubitatif dans le studio, vérifiez s'il s'agit du mercredi ou du samedi. Ah non, bon alors donc
c'est sûr, le 16 mars,
place Guichard, 13h, c'est sûr et certain. 16 mars, donc, place
Guichard, 13h. Si des personnes de Rébellion écoutaient, modifiez ça sur le site internet, ce n'est pas possible. Et donc, nous vous souhaitons une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine, demain, même heure, pour le Canu Info, 19h, pétante. Merci beaucoup d'être venu à vous.
Merci. Bonne soirée.
Au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.